Deuxième partie de notre grand entretien ce matin avec Michel Rocard qui nous a fait l'honneur et l'amitié de venir au matin d'été. On a beaucoup parlé en première partie des sources, des raisons de cette crise européenne. Vous appelez à une refondation de l'Europe, je le disais tout à l'heure, dans cette tribune collective publiée dans Le Monde.
Autour d'un pouvoir de décision ferme et d'une doctrine monétaire différente.
Il y a quelques jours, je voudrais dans cette dernière partie, dans le cadre qui nous reste, Michel Rocard, parler un peu de votre positionnement que vous avez pu expliciter tout à l'heure, très très engagé contre la finance spéculative, vous nous l'avez expliqué. Et ce qu'on lit dans les derniers livres que vous avez publiés, les Lettres aux générations futures avec Mathias Thépeau chez Bayard et Suicide de l'Occident, Suicide de l'Humanité chez Flammarion, ce qu'on lit, ou ce que j'ai lu en tout cas dans ces livres, c'est ce positionnement politique très très anticapitaliste, très marqué à gauche. Qui n'a pas été pourtant votre positionnement historique, Michel Rocard. Vous étiez plutôt tenant d'une ligne de gauche centriste. Ce que je voulais vous demander, c'est que vous qui aviez dénoncé la deuxième gauche contre la première gauche, vous avez eu en fait en quelque sorte raison trop tôt.
Alors on peut le dire comme ça, mais avant je vais revenir sur quelque chose. Je ne suis pas du tout anticapitaliste. Le capitalisme, c'est le nom qu'a pris l'économie de marché quand après 3000 ans, le marché qui était une rencontre des personnes privées, un vendeur, un acheteur, et le vendeur était souvent l'artisan qui avait lui-même fabriqué le produit. Quand on a inventé d'une part la machine à vapeur, puis l'électricité, permettant de faire travailler beaucoup d'hommes ensemble sur une source d'énergie unique, puis ensuite et en même temps presque la société anonyme, permettant de regrouper beaucoup d'épargnants, le marché est devenu instable. Parce qu'il y avait de grosses unités qui n'avaient pas de contrepoids. Et c'est à ce moment-là qu'on l'appelle le capitalisme. C'est l'économie de marché. Des rêveurs, beaucoup de rêveurs, des théologiens, les jésuites au Paraguay, les iraniens, Khomeini, etc. Des doctrinaires, des communistes aussi. D'une certaine façon, les fascistes, Hitler un peu, enfin moins, ont essayé autre chose dans l'économie dirigée. Rien n'a jamais marché. L'économie de marché a l'avantage de garantir la liberté des citoyens, et c'est, on n'a pas inventé autre chose. Comme elle s'appelle capitalisme actuellement, je suis pour le capitalisme, mais je suis très contre ce qui détruit le capitalisme, la preuve, on est en crise, c'est la spéculation.
La spéculation, la finance. Mais néanmoins,
s'il vous plaît, oui. Ne mélangeons pas les deux.
Tout à fait, ne les mélangeons pas, vous faites bien de le préciser. Néanmoins, Michel Rocard, sur votre positionnement politique, on vous découvre aujourd'hui des accents beaucoup plus ancrés à gauche que vous ne les aviez il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Vous signez aujourd'hui beaucoup des tribunes et des livres avec Pierre Larouturou de Nouvelle Donne, qui se prononce lui-même comme étant vraiment un contrepoint à la gauche de l'actuel Parti Socialiste.
Cher Nicolas Martin, quand le capitalisme marchait bien, 1945-1975, qu'il y avait les pleins emplois partout, que tous les revenus augmentaient en moyenne de 5% par an, y compris ceux du bas de l'échelle, de ceux qu'on appelle ailleurs les pauvres, qu'est-ce qu'il y avait demandé de mieux ? Il fallait se soucier de l'économie non marchande, de la culture, du confort de l'habitat, d'urbanisme. C'était ça notre bataille. Elle n'était pas destructrice de grandes institutions. Elle l'est maintenant parce que nous voulons détruire les institutions qui spéculent. C'est pas moi qui ai changé. C'est le capitalisme qui a fait toute sa place à la spéculation en lui donnant même la priorité. Et ça devient un danger pour l'humanité. J'ai pas tellement aimé que mon éditeur se rallie au terme « suicide » dans le titre de mon livre, parce que c'est un terme presque trop inquiétant. Nous en avons beaucoup parlé, et surtout le remettre deux fois. Mais nous sommes en train de vivre ce qui pourrait, si on n'y prend pas garde et si on ne sait pas le traiter, être un déclin de civilisation, tout bonnement. C'est gravissime. Et là, il y a matière à prendre le haut-parleur et à crier SOS. Et puis, il y a matière à mener des combats pour que ça s'arrête. Moi, j'ai pas changé. Je suis toujours aussi partisan de l'économie de marché, même si on l'appelle capitaliste, partisan de sa régulation sage, de sa stabilisation. Ce que, même pendant les Trente Glorieuses, les sociodémocrates, il faut les regarder en Scandinavie, là où ils ont le mieux réussi qu'ailleurs, il y avait de meilleures conditions, ils sont arrivés à maîtriser le capitalisme chez eux beaucoup mieux que tout autre. C'est un peu mon modèle de façon de penser, et ça le reste. Mais chez nous, ça devient plus grave. Et maintenant, c'est alarmant ce qui nous arrive.
Vous évoquez justement dans ce livre, Suicide de l'Occident, Suicide de l'Humanité, vous évoquez longuement les problèmes liés au réchauffement climatique. Je rappelle que vous aviez été par ailleurs nommé par Nicolas Sarkozy ambassadeur de France chargé de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique. La prochaine grande conférence sur le climat, c'est dans quelques mois, ce sera au mois de décembre à Paris. Jusqu'à présent, quasiment toutes les conférences climatiques internationales ont été un échec, hormis celle de Kyoto. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui,
Michel? Kyoto, demi-échec.
Oui, demi-échec seulement, et les autres échecs complets. Alors, c'est tout.
À toutes les autres.
Qu'est-ce qui vous fait dire, Michel Rocard, aujourd'hui, que cette COP21 ne suivra pas le même parcours?
Mais je ne l'ai jamais dit.
Ah, vous pensez que...
Je reste inquiet. Pour vous dire les choses en souriant, comme mon ami François Hollande a décidé et a réussi à faire que la France soit puissance haute, puissance invitante pour cette conférence, moi j'ai eu peur. Tellement c'est la COP21, seul Kyoto était un demi-succès, toutes les autres ont échoué complètement. Copenhague
était un fiasco.
Fiasco total. Et j'ai très peur. Alors, nous savons déjà que les négociations préparatoires à la COP21 en cours ne permettront pas qu'on y prenne des mesures obligatoires pour le monde entier. Ni taxe carbone, ni
non pourquoi plus vous plaidez,
marché des permissions d'émettre du gaz carbonique. Il n'y aura pas de décision. Bon. C'est donc déjà une partie d'échec. Mais il y a trois autres secteurs. Il y aurait déjà un relatif succès à ce que le diagnostic s'élargisse et soit partagé par plus de pays. Il y a encore quelques pays, à cause de leurs intérêts, la Russie à cause de son pétrole, l'Arabie Saoudite aussi, qui en sont à nier le diagnostic du réchauffement climatique. Si on sort de la conférence de Paris, c'est en décembre 2015, avec un élargissement du diagnostic, si la Russie finit par ne plus oser dire que tout ça est un baratin des Occidentaux pour l'affaiblir, ce qu'elle dit actuellement, quelque chose aura gagné. C'est le deuxième champ. Le troisième champ, c'est que beaucoup de pays, peut-être une écrasante majorité, vont à cette conférence annoncer leurs objectifs internes, nationaux, de réduction des gaz à effet de serre qu'ils produisent chez eux. Et il est possible quand même, j'espère bien, ce serait le succès éventuel de cette conférence-là, que la masse des engagements nationaux pris soit beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été dans les conférences précédentes. Si c'est ça, nous manquerons toujours d'une règle mondiale dont on a besoin, donc nous serons toujours dans des demi-succès, mais ce serait tout de même un progrès. Et puis il y a une quatrième piste, qui est la piste du comment on fait pour économiser du gaz carbonique. Alors, on sait par exemple que doubler tous les vitrages de tous les bâtiments où on habite permet de perdre moins de calories de chauffage qui s'en vont à l'extérieur. Mettre de la laine de verre dans toutes les charpentes, isoler les charpentes pour préserver le chauffage, c'est aussi une manière de gagner des calories. De même, remplacer sa voiture à essence ou à diesel par une voiture électrique ou même par une voiture hybride, c'est un gain.
Il y a déjà un certain nombre de mesures incitatives qui vont dans ce sens pour la réfection des logements.
En France, mais pas partout. Alors, j'espère que le nombre de pays qui recopient des idées de ce genre, qui les adoptent et annoncent qu'ils les adoptent, va augmenter. Et j'espère surtout qu'on va en trouver de nouveaux, que d'autres pays apporteront des idées nouvelles. J'espère bien même que la France sera capable de proposer un système comptable qui permettra à chaque famille, à chaque individu ou à chaque entreprise de comptabiliser le CO2 qu'elle émet et de recevoir des primes s'il réussit à en émettre moins.
Donc plutôt une écologie incitative.
Absolument. Ça, c'est pas impossible. C'est pas fait, c'est pas sûr, mais c'est possible. Si on y arrive, on aurait un demi-succès. Nous n'aurons toujours pas la taxe carbone mondiale nécessaire.
Alors, j'allais y venir précisément. Cette fameuse taxe carbone pour laquelle vous plaidez et qui n'est pas, on peut le dire, vraiment dans l'air du temps, même pour ne parler que de l'actuel gouvernement.
Elle n'est pas dans l'air du temps pour les gouvernants.
L'écologie, c'est que la Royale n'en veut pas. Elle ne veut pas non plus d'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Bref, elle résume tout ça en disant qu'elle ne veut pas d'une écologie punitive.
Elle a raison de ne pas vouloir d'une écologie punitive, mais je regrette qu'elle n'ait pas compris que la taxe carbone ne serait pas une écologie punitive, ça serait une écologie puissamment incitative à ne pas la payer, donc à circuler en voiture électrique.
C'est une question de
point de vue. Donc à mieux chauffer ses appartements, donc à utiliser moins d'engrais en agriculture, etc., etc. Un impôt intelligent est un impôt qui produit des comportements. Or, on n'a pas le choix. Vous avez dit, elle n'est pas dans l'air du temps. Je pense au contraire qu'elle est beaucoup dans l'air du temps, d'une part rapidement croissante de l'opinion publique. Vous avez regardé le cas des États-Unis. Le gouvernement central américain, la Fédération américaine, est contre tout ça parce qu'elle n'aime pas les impôts, par tradition, par une culture antifiscale des États-Unis. Mais vous avez quantité de villes, quantité d'États américains qui ont peur et qui se mettent à faire ça chez eux. Le plus bel exemple était ce républicain, même pas un démocrate, Schwarzenegger, gouverneur de Californie, qui a adapté le système fiscal californien et le système de transport de toute la Californie à une meilleure écologie. Il y a eu, à la fin de l'an dernier, 2014, une réunion mondiale des régions. 400 régions en train de marcher vers un peu plus d'autonomie et d'indépendance, qui insistaient beaucoup sur ce sujet, qui demandaient que la maîtrise des politiques énergétiques soit régionale pour pouvoir faire directement des politiques plus incitatives à l'économie du carbone, et peut-être même avec des taxes carbone régionales et non plus nationales.
Pour conclure, dans les quelques minutes qu'il nous reste, Michel Rocard, on a parlé donc de la crise de la finance spéculative, de la crise écologique qui est en cours. Pour finir par une note, peut-être un peu d'espoir, quand on lit votre lettre aux générations futures, un petit livre assez fataliste, hein, on va le dire, hein, vous constatez à quel point les responsables politiques actuels passent à côté de la profondeur des mouvements tectoniques, hein, qui font bouger les lignes de la société contemporaine, mais dans lequel vous réaffirmez à plusieurs reprises votre foi en l'intelligence collective et en la capacité des citoyens à réinventer leur société. Je me suis dit, en lisant ce petit livre, qu'on pourrait résumer cet entretien par cette phrase, je vous la soumets, « Je crois aux forces de l'esprit ». Michel Rocard.
Elle est de François Mitterrand, bien sûr.
Mais c'est pour ça que je vous la soumets avec une once de malice.
Il arrivait de temps en temps à François Mitterrand d'avoir raison quand même. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. C'est une très belle phrase. Je le crois aussi. Mais je voudrais ajouter qu'il faut une complicité qui est la vôtre à vous journalistes. Or, vous avez tous succombé, France Culture moins que d'autres, c'est même dans votre titre, à l'impérium, au commandement de l'instant. Or, nous n'avons parlé que de choses de très long terme. On aura une taxe carbone dans 20 ans d'ici. Si nous arrivons à ralentir l'effet de serre, il nous faudra 30 ou 40 ans pour ralentir pour la fin du siècle. Ça suffira peut-être à sauver la vie sur la planète. Pour les siècles suivants, ce sera pas mal. Le temps long a disparu de nos antennes de télévision et de nos temps de radio parce que vous n'avez pas d'espace pour ce qui est compliqué, qui ne fait pas un flash. Il faut que le monde de la communication et le monde de l'information s'habitue à ce que les choses importantes de notre temps soient des choses de long terme et qu'il faut savoir commenter.
Vous ne pensez pas, Michel Rocard, que ce temps court, cette impulsion systématique, elle n'a pas été aussi initiée par certains responsables politiques dans les années qui viennent de se produire ?
Non, je n'ai que 50 ans de métier, mon expérience est assez confirmée. La plus jolie question qu'on m'ait posée un jour, c'était à la radio, j'avais 2 minutes, et la question était « Quel est votre projet de société ?» Nous étions dans l'imbécilité pure et simple. Vous êtes interdictif du temps long. Faut vous rendre compte et l'accepter. Mais vous l'êtes pour des raisons économiques et sociologiques. C'est pas de la malversation de journaliste, c'est la contrainte de votre technique. Simplement, pour la dominer, il faut l'accepter et la reconnaître. Il n'y a plus de politique qui s'adresse à l'humanité tout entière. Seuls les chefs d'État, de temps en temps, une fois l'an, font un discours d'une langue qui est reproduit en totalité. Pour le reste, les politiques ne s'adressent à l'opinion que par les quelques phrases qu'on reprend de leur discours et qui sont reprises. Et en général, dans un discours important d'un homme ou d'une femme politique quelconque, vos collègues des médias non culturels ne reprennent que les phrases conflictuelles avec d'autres. Parce que le spectacle de la bagarre permanente est rigolo et que c'est lui qui fait vendre de l'espace ou du papier. C'est pas bien, ça. Les explications longues disparaissent. J'ai le sentiment que nous n'avons plus la possibilité de nous adresser à l'opinion pour expliquer tout ça. Et il faut qu'on soit relayé par vous. Ce que nous ne sommes pas, sur le fond.
Eh bien, nous espérons, Michel Rocard, qu'en ces 45 minutes passées en votre compagnie, nous serons partis un peu sur ces chemins du temps un peu plus longs et que nous aurons eu
mais
la
c'est bien
chance
le cas. Et moi, je vous en remercie, parce que c'est inhabituel.
De vous entendre effectivement un peu en longueur. Merci beaucoup, Michel Rocard, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les deux derniers ouvrages, La lettre aux générations futures, en espérant qu'elles nous pardonneront, c'est chez Bayard, vos entretiens avec Mathias Thépeau, et chez Flammarion, Suicide de l'Occident, Suicide de l'Humanité. Merci infiniment.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation, il est important. Merci Michel Rocard.
Merci à vous.